Bonjour, Génération revient donc, après son petit best-of du mois dernier. Cette fois, nous avons concocté une émission plus compacte qui progressera sur le fil rouge des petits commerces et plus particulièrement de l'alimentation. Depuis nos mois de confinement, nous avons pu remarquer l'importance qu'avait repris ce qu'on appelle les commerces de proximité. Pas seulement pour nos aînés, mais pour toute la population des bourgs, ils ont été, et je l'espère, demeureront le trait d'union ou de liaison entre les personnes. Deux innovations pour l'émission. Notre première rubrique est une petite pièce radiophonique écrite par Margaret, qui va vous la présenter. Et nous verrons qu'elle parle de village, de primeur ou d'épicerie et d'intégration. Notre dernière rubrique, toujours animée par Margaret, est un reportage sur un primeur de Montaigu et son passage de témoin. Il y sera question centralement de produits locaux. Entre les deux, nous retrouverons notre Josie et sa rubrique santé qui va tourner autour de l'œuf. Bonne émission Génération.
Pour cette nouvelle rubrique, il s'agit d'une petite pièce, piécette comme dit Jeg, écrite par moi-même, Margaret. Il y a quatre personnages. Pierre joue le rôle de Jean-Jacques, monsieur le maire. Patrick interprète Jean. Christiane, Alice. Enfin et surtout, Sylviane joue le rôle de Paul. Merci à tous les quatre pour votre participation.
Pièce radiophonique.
Cette pièce est bien sûr de la fiction, mais inspirée de faits réels. C'est la première réunion depuis les élections municipales. Toute la nouvelle équipe est là, puisque l'ancien maire n'a pas été réélu. Il y a du changement dans l'air. Jean-Jacques est élu maire, et parmi les adjoints au maire, Alice s'occupe de la communication avec beaucoup d'enthousiasme. Paul et Jean, qui sont aussi adjoints, assistent à la discussion.
Est-ce que tout le monde est bien installé? En tant que nouveau maire de cette commune, il y a un point qui me tracasse depuis un certain temps que je souhaite partager avec vous. Je sais que tout le monde a un emploi du temps très chargé, y compris moi d'ailleurs. Je voulais parler de l'ambiance dans notre commune. Personnellement, je trouve que ça se dégrade. Le visage du monde change et nous devrons changer avec. Dans le temps, tout le monde était du village ou des environs. Au pire, quelques aventuriers partaient à Toulouse, Bordeaux ou même Paris. Aujourd'hui, le déplacement est monnaie courante. Nous avons vu l'arrivée des Européens, surtout des Blancs, liés à différents projets industriels qui ont fourni du travail à la région. Nous avons vu l'arrivée ou le départ de sportifs, ou tout simplement des gens qui ont duré du travail ici ou ailleurs. Les gens aujourd'hui sont plus mobiles. Il faut souhaiter bonne chance à celles et ceux qui partent et être accueillant pour celles et ceux qui arrivent, quelles que soient leurs raisons, quelles que soient leurs origines, sans jugement. Bien, je crois que j'en ai assez dit. Je vois que Jean a envie de parler. À toi, Jean.
Nous avons un comité qui s'occupe des événements, mais tout de même, les gens ne se connaissent pas en dehors de leurs voisins proches. Ça, c'est vrai. Mais bon, notre commune est petite et doit rester locale. Tous ces étrangers dans le village, et par là, honnêtement, je veux dire qu'ils ne sont pas de notre région, je n'aime pas trop, et pour moi, ils piquent le boulot des gens d'ici.
Jean, j'entends bien ce que tu dis, mais faut évoluer. Il y a bien des avantages aujourd'hui avec ce brassage de culture, faut s'ouvrir l'esprit. On est tout de même dans une commune qui a voulu des changements à la mairie. Et si on demandait l'avis des habitants? Si tout le monde est d'accord, moi je me charge d'avoir le point de vue des gens de la commune.
Quelque temps plus tard.
Bon, revenons à l'idée de Jean-Jacques sur l'accueil de nouveaux résidents. Je suis responsable de la communication, j'ai donc une certaine vision de la chose. Mais pour avoir l'opinion et les idées des habitants sur l'intégration de nouveaux dans la commune, j'ai fait passer un questionnaire à tous les résidents de plus de 16 ans. J'ai utilisé la liste d'adresses e-mail que nous avons à la mairie. J'ai aussi fait mettre un mot dans toutes les boîtes aux lettres. Faut pas oublier que tout le monde n'utilise pas Internet. Eh bien, j'ai été très étonnée de la réaction des gens. Je dirais que le retour est 50-50 pour ou contre. Mais même ceux qui ont des doutes pensent que c'est bien de faire quelque chose. Vous savez que l'épicerie va fermer. Eh bien, malgré un taux de chômage très élevé, il n'y a pas de repreneur. J'ai pris l'initiative de contacter les grandes enseignes et la NPE, mais ça n'intéresse personne. La vie dans la commune risque de mourir. T'en penses quoi, Paul ?
Franchement, moi, j'hésitais un peu, mais j'ai bien réfléchi. Et il est grand temps de s'ouvrir. Du coup, je suis d'accord pour essayer quelque chose, de donner la chance à quelqu'un. Et si on faisait venir une famille de réfugiés pour tenir l'épicerie ? On contacte un organisme qui se charge de nous trouver une famille. Moi, j'ai déjà créé une entreprise sous la loi 1901. Je peux les aider, les conseiller, être une présence pour eux dans le village.
J'ai quand même des doutes. Et s'ils commencent à recevoir des gens bizarres, faire des réunions bizarres, ou essayer de nous influencer, et nos établissements ancrés dans l'esprit de la République.
Et s'il y a des réfugiés qui ne demandent que ça, hein, de s'intégrer, faire partie de notre vie, notre République, sans haine, sans conflit. On voudrait tout ça pour nos familles. Ils peuvent partager leurs expériences, nous faire réfléchir à quelque chose qu'on ne peut même pas imaginer.
Paul tient à sa parole. Elle fait venir une famille par un organisme qui se charge des réfugiés. Elle les aide à s'installer et l'épicerie est un grand succès à tout point de vue. Encore plus tard dans l'année.
Je profite de cette réunion du village pour remercier tout le monde de leur participation pour accueillir la famille qui tient l'épicerie. Je sais que certains parmi vous étaient réticents, mais on doit avouer que c'est un grand succès à tout point de vue. Aujourd'hui, il faut bien dire que les parents parlent de mieux en mieux le français avec une motivation exemplaire. Les deux enfants vont à l'école du village et les enseignants me disent qu'ils se sont adaptés très vite et travaillent autant, sinon plus, que leurs camarades de classe. D'ailleurs, parlant du travail, les parents sont très enthousiastes et l'épicerie est un succès. Tout le monde y a gagné. La famille est loin du conflit, elle est heureuse, intégrée. Et nous, avons pu profiter de prix cassés de bons produits qui défient toute concurrence. Une épicerie qui marche du tonnerre et qui est devenue un centre important de la vie sociale de la commune. Une bouffée d'oxygène qui a amélioré notre sens civique et le sens d'entraide et de retour. Nous sommes désormais un exemple à suivre dans la région. On est même passé à la télé locale. Et leur fils représente notre village dans les concours d'échecs organisés par le club soutenu par les parents. Merci à tout le monde. C'est une histoire de réussite dont nous pouvons tous être fiers.
sound of drums. People couldn't believe what I'd become. Revolutionaries wait for my head on a silver plate, just a puppet on a lonely string. Or who would ever want to be king? I hear Jerusalem bells ringing, Roman cavalry choirs are singing. Be my mirror, my sword and shield, my missionary.
Seul peut me guérir.
L'œuf renferme tout ce dont l'embryon a besoin. Sa coquille est assez solide pour que la poule ne l'écrase pas et assez mince pour qu'elle puisse lui communiquer sa chaleur. L'œuf demeure un excellent aliment à haute valeur nutritive et d'un prix très abordable. La cuisson élimine le risque de salmonellose sans affecter ses valeurs nutritives. Comme toutes les protéines de source animale, celle de l'œuf renferme tous les acides aminés essentiels. Elles sont souvent considérées par les nutritionnistes comme les protéines de référence. Un œuf moyen apporte 80 kcal, 7 g de protéines, 6 g de graisse, dont un peu moins de 2 g d'acide gras saturé, et 200 mg de cholestérol qui est contenu dans le jaune. Il n'est donc pas nécessaire de supprimer le blanc. D'après une étude clinique, le taux de cholestérol sanguin n'est pas plus élevé chez les individus qui ont une petite consommation d'œufs, moins d'un par semaine, que ceux qui en consomment plus d'un par jour. Le saviez-vous? L'œuf renferme une protéine complète. Une protéine associe 20 acides aminés, 9 d'entre eux ne sont pas fabriqués par l'organisme. On les appelle acides aminés essentiels, car il faut absolument l'épuiser dans l'alimentation. Une protéine alimentaire qui les renferme tous est dite complète. L'œuf entier, jaune plus blanc, apporte ses 9 acides aminés en proportion optimale. Un œuf peut donc être considéré comme l'équivalent protéique de la viande. Un œuf égale à 30 à 40 g de viande. Numérotation des œufs. Seule la mention œuf provenant de poules élevées en plein air et nourries avec une alimentation biologique numéro 0, apporte de réelles garanties de qualité, de même que le label rouge, qui atteste des conditions d'élevage comparables, numéro 1. Afin de favoriser un mode de production respectueux de l'animal, ne nous fions pas au visuel de la boîte et préférons les œufs marqués 0 et 1. Le chiffre imprimé sur l'œuf, précédant les lettres F, R, est la façon la plus simple de reconnaître un mode d'élevage. Les autres numéros, 2, œufs de poule élevés au sol, élevage intensif en intérieur mais sans cage, 9 poules au mètre carré. Numéro 3, œufs de poule élevés en cage et batterie, 18 poules au mètre carré. L'étiquetage indique aussi le poids de l'œuf. Les petits, moins de 53 grammes. Les moyens, les plus courants, 53 à 62 grammes. Les gros, 63 à 72 grammes. Les très gros, plus de 72 grammes. Toujours regardez la date qui figure sur la boîte. La date limite de consommation recommandée étant fixée à 28 jours après la ponte. Attention, fragile! Un œuf se dégrade au fil du temps. Si vous devez le consommer à la coque ou mollet ou encore sans le cuire, mayonnaise, mousse, etc., il faut l'utiliser aussi frais que possible. Pour améliorer la conservation, rangez l'œuf côté pointe en bas, ce qui limite les échanges gazeux avec l'extérieur. Jetez un œuf fêlé ou choqué, car il n'est plus protégé des contaminations éventuelles.
Omelette, omelette, aux tomates et aux champignons. Omelette, omelette, aux patates et aux petits oignons.
Est-ce que tu peux mettre des poivrons?
Oh oui, oh oui, oh oui.
Est-ce que tu peux mettre des oignons?
Gnon, gnon, gnon.
Est-ce que tu peux mettre des carottes?
Oh oui, oh oui, oh oui.
Est-ce que tu peux mettre des lardons?
Ça dépend, hein.
Omelette, omelette,
bien bon,
bien baveuse avec des croutons. Omelette,
bien bon,
omelette, miam miam, aux tomates et aux champignons.
Est-ce que ça te met l'eau à la bouche?
Oh oui, oh oui, oh oui.
Est-ce que ça te fait péter?
Non, non, non.
Est-ce que ça te donne envie?
Oh oui, oh oui, oh oui.
Est-ce que ça te fait rêver?
Moyen.
On veut une
omelette, omelette, aux patates et aux petits oignons.
Oh, mais j'y pense d'un seul coup.
Quoi, quoi, quoi?
J'ai oublié d'acheter les œufs.
Oh non, oh non, oh non.
Il n'y a qu'à faire une purée.
Oh oui, oh oui, oh oui.
Bon, allô, t'es personnel, hein? Fais pas de purée, on oublie tout, on laisse tomber.
L'omelette, l'omelette, aux tomates et aux champignons.
On oublie
l'omelette, l'omelette, aux tomates et aux petits oignons.
Et dis Josie, moi je me posais la question de la manière de conserver les œufs. Frigo, pas frigo? Qu'est-ce que t'en penses?
Ben ça peut être les deux. Il faut savoir que j'ai des poules depuis l'an 2000 et que je mets les œufs au frigo. Et ça ne pose aucun problème. Donc c'est au choix. C'est au choix à partir du moment que vous les gardez 28 jours. Voilà.
Josie, tu parlais que tu avais des œufs et tu m'as dit aussi que tu avais des œufs bien particuliers. Tu peux nous en parler?
Oui, c'est des œufs bleu turquoise en fait, qui proviennent des poules de race Araucana en provenance du Chili. Voilà, j'ai un couple. Et il faut savoir que ces poules n'ont pas de croupion, ce qui leur confère une silhouette de kiwi. Cette caractéristique anatomique impacte leur reproduction, ce qui en fait une volaille rare et chère. Savoir que on dit que c'est sans cholestérol, mais en fait c'est faux. Les œufs contiennent autant de cholestérol que les œufs normaux. Voilà.
Et c'est juste la coquille qui est bleue ou c'est bleu à l'intérieur aussi?
Non, l'œuf à l'intérieur est normal. Le jaune dépend de la nourriture qu'on donne aux poules. Voilà.
notre rubrique À la rencontre.
Bonjour tout le monde.
Bonjour, madame.
Je suis ici avec Ambroise et Benjamin dans mon jardin. Hein, crise sanitaire oblige, un petit peu quand même. Et donc, Ambroise, comme si on a besoin de vous présenter. Mais bon, allez-y quand même.
Eh bien, moi je m'appelle Ambroise Guiverneau. Je suis primeur à Montaigu-sur-Save, au magasin Chénine. Et nous vendons à la base des fruits et légumes. Et par la suite, beaucoup de choses comme du fromage, de la viande et de l'épicerie bio.
Parfait.
Moi, c'est Benjamin Durafour et je suis le futur repreneur du magasin de Nîmes.
Ah, c'est bien. Alors, quelques petites questions. Donc, vous vendez plein de produits bio. Donc, quelle est la différence entre le bio et le non-bio ?
La différence, disons que dans les produits bio, ils sont logiquement cultivés sans pesticides et mauvais produits. Voilà. Alors que les autres produits ont plus peut-être de pesticides et de choses inconnues, en fait, hein, par nous, en tout cas.
Oui, mais selon la législation en France ou la législation du pays
alors,
du produit ?
La législation en France est beaucoup plus propre, peut-être, que la législation de certains pays.
Oui.
Puisque dans le bio, tous les pays n'ont pas les mêmes normes. Et donc, on trouve ça fort dommage parce qu'on trouve des produits dits interdits sur du bio de pays hors du nôtre.
Donc, ça veut dire que si on achète, par exemple, sans vouloir viser un pays, si on achète un fruit espagnol, ça se peut qu'il est aux normes bio en Espagne, mais pas en France.
Absolument.
Ah, donc on ne peut pas faire...
On ne peut pas avoir une confiance entière dans le bio de tous les pays, absolument.
Et donc l'étiquette, sauf si c'est français, alors à ce moment-là,
les produits français sont plus fiables, disons.
D'accord. Ok. Et puis, petite question aussi. Est-ce qu'on peut avoir confiance alors à l'étiquette ? Non, du coup ? On peut avoir confiance en vous, mais pas...
Voilà. L'étiquette, elle dit ce qui est, en fait. Hein. Si un produit était espagnol ou autre, on va vous le dire. Nous, on va vous le dire, mais on est incapable de vous dire les produits qui sont utilisés dans cet aliment.
D'accord. Ok. Ok. Alors, parce que bientôt, vous allez partir à la retraite.
Ah oui, madame.
Wow.
Quel bonheur.
Et vous allez rester dans la région ou vous allez...
Pas forcément. Je pense qu'on va aller vers le soleil, un petit peu plus.
Parce qu'il n'y a pas de soleil ici ?
Si, mais pas suffisamment, je trouve.
Alors, ça fait combien de temps que
eh bien,
vous gérez le magasin ?
10 ans, aujourd'hui.
10 ans ? Ouais, ouais. 10 ans ? Ouais, ah ouais. Ouais. Et quelles sont les choses... qui vous a plu et les choses qui vous ont moins bien plu.
Alors, ce qui nous plaît, évidemment, c'est acheter des produits, les revendre, évidemment, mais c'est le contact avec le client, surtout.
Mmh.
C'est ce qui est le plus plaisant dans ce métier.
Mmh. Mais il y a de tout. Il y a des gens
Il y a de tout, il y a des gens déplaisants.
Il y a des gens sympas comme moi, par
exemple. Voilà, par exemple.
Et il y a des gens...
Qui sont moins sympas, mais bon, on accepte tout le monde, vous savez.
Oui, mais vous n'apprécierez pas les gens bien comme moi, s'il y avait...
Madame est trop modeste.
Et qu'est-ce qui vous a déplu ? Quelle est la chose que vous n'aimez vraiment pas faire ?
Déplu, vous savez... On ne peut pas dire qu'il y a des choses qui nous ont déplu dans ce métier. Hein. On ne peut pas être comme ça. Je veux dire, il y a forcément des choses qui déplaisent parfois, mais c'est très passager, on ne peut pas en tenir rigueur. Quoi.
Donc vous serez contente de ne plus faire le marché à 4h du matin ?
Bien sûr, parce que je crois que j'ai travaillé de bonne heure dans ma vie et qu'aujourd'hui, je commence à en avoir assez. Quoi, voilà.
Ouais. Et qu'est-ce qui va vous manquer ?
Ah ben c'est le contact avec la clientèle, obligatoirement.
Oui, mais vous pourrez faire partie d'une association.
Oui, mais vous savez, je parle avec n'importe qui dans la rue.
Oui, ça c'est vrai.
Voilà.
Et Benjamin, donc vous êtes arrivé depuis, vous travaillez un petit peu en binôme avec...
Avec Ambroise et Catherine, on va dire que ça fait environ un mois qu'on a commencé à venir un peu au magasin pour commencer à prendre les rênes un petit peu du magasin afin de reprendre le magasin en bonnes conditions.
Et c'est pour quand alors la reprise à 100%?
Ce sera pour la fin du mois.
Et quelles sont les choses que vous êtes vraiment contente de faire? C'est toujours la même chose.
Nous, avec ma compagne, on est très contents. C'est surtout de se rapprocher du côté du village, en fait, de sortir de la ville pour partir dans un côté plus terroir, avec des gens qui vont être un peu plus ouverts, un peu moins fermés, comme les gens qu'on peut peut-être trouver un peu en ville, pressés par le travail. Avec tous les transports, toute la pollution qu'il y a, et retrouver un cadre un petit peu plus naturel.
Et qu'est-ce que vous appréhendez? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous appréhendez d'ailleurs?
Alors on a quand même des petites appréhensions. On appréhende un petit peu de pouvoir satisfaire suffisamment correctement la clientèle qui se trouve aux alentours.
D'accord. Et juste une petite question par curiosité. Le confinement, ça vous a apporté quelque chose? C'était néfaste?
Écoutez, pour nous, ça n'a pas été néfaste, obligatoirement, puisque, disons que beaucoup de gens se sont tournés vers des commerces de proximité à ce moment-là, et nous, on a bénéficié, disons, de cet état-là, quoi.
Oh ben c'est bien. Donc, ben voilà, donc on va arrêter là, je pense. Je vous remercie tous les deux.
Je vous en prie, chère madame.
Merci à vous. C'est avec plaisir qu'on attend les bons produits pour l'avenir.
Les produits bio de l'étranger, surtout.
Eh bien, merci beaucoup tous les deux.
Merci.
Margaret, dans ton entretien, tu parles de produits bio français et de produits bio étrangers. Et Ambroise, notre primeur, a parlé de l'Espagne. Pourtant, l'Espagne fait bien partie de l'Union européenne. Personnellement, j'aurais pensé que nous étions sur les mêmes normes. C'est pas le cas?
Depuis l'entretien avec Ambroise et Ben, on me demande s'il y a une législation européenne sur la culture bio. J'ai fait des recherches sur Internet. Certes, Wikipédia, mais surtout le site du ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation français. Si j'ai bien compris, le 30 mai 2018, l'Union européenne a adopté, après 4 ans de négociations, un nouveau règlement bio. Pour citer le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation, et je cite... L'objectif est d'encourager le développement de l'agriculture biologique en harmonisant les pratiques européennes et en renforçant les garanties données aux consommateurs, notamment concernant les produits importés. Décryptage des nouvelles mesures qui entreront en vigueur le 1er janvier 2021. Fin de citation. Donc dans quelques mois. Il y a donc ce qu'on appelle le logotype. C'est un logo à fond vert avec des étoiles en forme de feuilles. Vous l'avez peut-être déjà vu sur vos produits emballés, puisque, si j'ai bien compris, la France est un des pays européens à adopter le logo, bien avant la date prévue par l'Union européenne. Donc, jusqu'en janvier 2021, il y a des différences dans les produits européens. Comme dit Ambroise, votre primeur est sûr de la production des fruits et légumes français. Il peut s'assurer comment votre légume ou fruit a poussé, car on peut imaginer que dans certains cas, il connaît bien le producteur. Au pire, il est très familier avec une législation française. Ça répond à ta question?
Tout à fait, Margaret. Merci beaucoup.
Bon, je sais que le traçage bio... En France, ça part de la terre à cultiver, d'après mes connaissances. Mais on ne sait pas du tout ce qu'il en est de la part des non-européens, en tout cas à partir de 2021. Est-ce qu'on sait quelque chose pour eux?
Oui, pour la France, il faut 2 ans d'assainissement de sol après contrôle pour être agréé bio. Par contre, c'est une autre paire de manches pour un produit d'un autre pays, même européen. Il faudrait même parfois un doctorat en chimie pour comprendre l'étiquette sur le produit. Votre primeur ne peut pas vous rassurer de la qualité du produit. Il y a peu de chances que le primeur connaisse le producteur, et encore, comme dit si bien Ambroise, il ne sait pas quels produits ont été utilisés. Est-ce le producteur termine ses bidons d'insecticides? Est-ce que ça fait des mois ou des années que le producteur a décidé de ne plus utiliser certains produits chimiques? Allez savoir.
Par contre, il existe certains produits locaux qui ne sont pas labellisés bio et pourtant le producteur respecte la réglementation. C'est que la démarche pour l'agrément rebute certains éleveurs et il y en a même que j'ai connus.
Oui, absolument. Donc pour conclure, manger local, c'est faire un choix éclairé de ce qu'on mange. C'est bon pour la planète puisqu'il y a peu de transport. Le produit est cueilli frais. On soutient les producteurs et les commerces locaux. C'est bon pour nous, c'est bon pour la région.
Margaret, après cette excellente interview, tu pourrais nous expliquer pourquoi ce choix et en quoi il concerne Génération et les 60 ans et plus?
D'abord, le sujet de notre émission, c'est l'épicerie ou le primeur du village et les produits alimentaires. Ensuite, pour moi, l'histoire est appropriée. Les membres de Génération ont plus de 60 ans et sont dans la Haute-Garonne. Ambroise est dans le cadre des gens de notre tranche d'âge avec les mêmes soucis puisqu'il va prendre sa retraite avec sa femme fin octobre. C'est un nouveau chapitre de leur vie qui commence. On a vu à Montaigu l'importance du primeur comme point central de la vie active du village. Mais la roue tourne, Ambroise et sa femme s'en vont, un nouveau couple arrive à leur place. La vie c'est comme ça.
Le projet Génération, c'était un spectacle, et ça le redeviendra, et c'est aujourd'hui une émission radio. Et toujours un rendez-vous artistique et d'expression réalisé dans le cadre de l'association Artis. Il est financé par le Conseil départemental de Haute-Garonne et la Conférence des financeurs, en partenariat avec Radio de la Save, bien sûr. Nous invitons nos 60 ans et plus à rejoindre l'aventure de Génération.